Ne sois pas trop émotive.
Arrête de penser, fais-le comme tu le sens.
T'es souvent complexe et trop rapide pour que les autres te suivent.
Tu en fais trop.
Les atypiques du cerveau, le podcast qui en a entre les deux oreilles.
Et bienvenue dans ce nouvel numéro des atypiques du cerveau. Aujourd'hui, j'ai avec moi Anne-Sophie Thillot. Bonjour Anne-Sophie et merci d'être là. On a entendu avant le générique quelques phrases qui vous parlent particulièrement. Est-ce que vous pouvez vous présenter, nous en dire un peu plus?
Oui, bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Anne-Sophie Thillot. Je suis consultante en communication, notamment dans le monde du sport. J'ai été sportive d'élite pendant de nombreuses années en équipe suisse de voile et avec notamment une participation aux Jeux Olympiques de Pékin 2008. Et j'ai été assez récemment testée au potentiel, c'est-à-dire un cerveau qui turbine non-stop avec beaucoup d'énergie, de passion et d'émotion.
Et justement, par rapport aux phrases qu'on a entendues en tout début d'émission, je suppose que c'est des phrases que vous avez souvent entendues. Alors peut-être si vous avez été testée un peu tardivement, qui maintenant prennent une autre lumière.
Oui, c'est vrai que ces phrases résonnent en moi et aujourd'hui me font sourire. Mais c'est des phrases que j'ai beaucoup entendues tant dans ma carrière sportive, dans ma vie professionnelle et puis finalement aussi peut-être dans ma vie familiale. Je suis quelqu'un qui a toujours ressenti les émotions de manière très forte et que j'exprimais aussi mes émotions avec des larmes ou avec beaucoup de joie et d'euphorie parfois. Aujourd'hui, je crois que j'ai appris à accueillir ces émotions, à accepter que c'est un peu différent de monsieur et madame tout le monde peut-être, et à trouver des stratégies pour gérer ça, que ça devienne pas gênant dans mon quotidien, mais plutôt un atout.
Et qu'est-ce que ça a changé justement de le savoir assez récemment, somme toute ?
C'est sûr que avec le recul, j'aurais bien voulu pouvoir mettre le doigt sur tout ça un peu avant dans ma vie, mais aujourd'hui, ça me permet vraiment d'être sereine par rapport à mon quotidien, à ma relation aux autres, à justement ces émotions qui viennent en force parfois, et puis à simplement, comme je l'ai dit, à trouver des stratégies pour mieux gérer tant, je dirais, ce trop-plein d'énergie ou, comme on l'a entendu dans les phrases précédentes, un besoin de beaucoup en faire tout le temps, de jamais être capable d'être au repos, de peut-être aussi parfois m'éparpiller dans les idées ou les projets.
Comment votre entourage vit tout ça, le fait de l'avoir découvert ou avant? Est-ce que ça a eu un impact?
Mes proches, notamment, je pense à ma famille, à mes parents, m'ont avoué, une fois que j'avais passé le test, qu'ils avaient suspecté un fonctionnement rapide, on va dire singulier, et avec aussi une grande demande, même enfant, en termes de curiosité, de besoin de créer, de faire plus que ce qui était proposé à l'école, de faire différent. Et là rentre certainement en compte l'aspect sportif de ma vie. Pour eux, je pense que ça a été aussi peut-être un petit soulagement de se dire, ah ben voilà, on sait maintenant, et puis on en rigole parfois, et puis surtout ça permet de mieux gérer certaines situations et peut-être mieux comprendre mon fonctionnement simplement.
Évoquer le sport et au tout début vous nous avez rapidement dit tout ce que vous avez eu comme beau parcours. Est-ce que ça a eu un impact, justement, cette différence ou cette notion parfois de décalage, comme vous disiez?
Oui, je suis assez persuadée que cette différence m'a permis d'atteindre le plus haut niveau. En tant que jeune athlète, je n'étais pas vraiment pressentie dans les meilleurs jeunes de mon club, de ma fédération. Je n'étais pas dans les plus mauvaises non plus, mais je dirais que je ne ressortais pas du lot. Et par contre, une fois qu'on a avancé dans le chemin de l'athlète, j'ai su mettre le doigt sur des aspects qui me semblaient essentiels pour la performance, mais que mes copains et copines n'avaient pas forcément encore vu, trouvé, compris. Et donc, très jeune, je me suis intéressée à la préparation mentale. Très jeune, j'ai compris qu'il n'y avait pas simplement la condition physique, mais qu'il fallait aussi travailler justement son mental, préparer son bateau au maximum, gérer tout un projet, etc., etc., pour pouvoir atteindre le plus haut niveau. Donc, je pense vraiment que cette manière de penser, cette capacité à faire l'éponge sur plein d'éléments qui m'entourent, aussi les remises en question, le travail, la visualisation, tous ces aspects-là ont été des grands, grands atouts qui m'ont permis, entre guillemets, de justement un peu plus tardivement sortir du lot et être l'équipage, faire partie de l'équipage sélectionné pour les Jeux Olympiques.
Vous avez partagé le parcours qui est le vôtre. Je sais que maintenant, vous avez aussi un peu changé de carrière et mis à profit cette connaissance du haut potentiel intellectuel et de tout ce que vous avez appris sur vous-même pour se poser la question du lien avec le sport. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus ce qu'il en est ?
Oui, alors quand je regarde en arrière, c'est vrai que déjà, je pense que d'avoir maintenu une double carrière, c'est-à-dire de maintenir une carrière sportive au plus haut niveau ainsi que des études, ça a été un moyen pour moi de, entre guillemets, survivre parce que je me suis mise en difficulté à un moment où je m'embêtais à l'école, où j'avais besoin de stimulation. Et en fait, grâce au sport, je me suis mise un petit peu dans le dur, on va dire, par rapport à mes copains. Et ça m'a permis de revenir un petit peu dans la norme. Et donc, avec le recul, je réalise que aussi, j'ai vécu des moments, j'ai parlé de moments d'atouts et de moments positifs par rapport au sport, mais des moments aussi difficiles par rapport à cette manière singulière de penser et notamment sur la gestion des émotions que j'ai évoquées aussi tout à l'heure. Et donc avec une amie psychologue du sport et spécialisée dans les profils au potentiel, on a beaucoup échangé et en fait elle avait le côté on va dire académique, pratique, enfin du praticien, du thérapeute. Et puis moi, quand on discutait, j'arrivais à lui amener quasiment un exemple concret sur chaque situation. Et je me suis dit, ben tu vois, si on avait pu en parler plus tôt, si on avait pu simplement accompagner mes coachs dans l'accompagnement de l'athlète que j'étais, je pense qu'il y aurait eu des situations qui ont été moins difficiles, moins blessantes. Et donc, on s'est associés pour pouvoir donner des formations à des coachs sportifs, entraîneurs, enfin, toutes les personnes qui font partie de l'entourage d'un athlète, et pour leur donner les clés de coaching de ces athlètes qui ont des profils de haut potentiel. Un exemple très très concret, c'est que on va beaucoup processer, je veux dire dans la tête, les mouvements, la technique, et on va avoir parfois du mal à se laisser aller dans le ressenti, dans la sensation, et le fait typiquement d'entendre une phrase comme arrête de trop penser et fais-le au feeling, fais-le selon tes sensations. C'était quelque chose de très bloquant pour moi parce que arrête de penser, ben simplement je ne sais pas le faire et mon cerveau continue quoi qu'il en soit. Donc c'était un élément presque bloquant alors que mon coach voulait simplement m'aider. Mais si on avait pu tant finalement analyser pourquoi je pensais j'avais cette réaction là que donner des outils à mon coach pour dire attention, avec un profil comme ça, ça va pas l'aider, par contre voilà les pistes à suivre, etc. Je pense que ça aurait été vraiment un atout.
Beaucoup de cas comme ça, de personnes que vous avez croisées au cours de votre carrière et où vous pensez qui étaient dans la même situation finalement de décalage que vous, d'incompréhension, et qui auraient pu peut-être faire d'autres performances ou en tout cas mieux comprendre cette pratique sportive en ayant une meilleure compréhension d'elle-même ou d'eux-mêmes.
Oui, je dirais que j'ai tant croisé des gens dans le monde sportif que maintenant dans le monde professionnel. Maintenant que je comprends mon profil, entre guillemets, j'arrive à mieux aussi repérer les petits signes chez les autres personnes. Et donc, je me rends compte parfois je me dis, ben là, on pourrait vraiment donner des outils de coaching, de nouveau, tant au niveau sportif que professionnel, pour que la personne puisse peut-être mieux s'intégrer dans une équipe, mieux être comprise, et puis mieux être encadrée, et puis simplement valorisée et élevée pour que cette personne puisse exprimer son plein potentiel.
Merci beaucoup pour tout ça. Est-ce qu'il y a autre chose que vous souhaiteriez partager? Je ne sais pas, un conseil peut-être pour des personnes qui écoutent, des sportifs, des sportives, qui se posent des questions, ou leur entourage, ou des parents peut-être d'enfants.
Oui, alors ce que moi j'ai remarqué dans mon parcours, c'est que je n'ai jamais été la première de classe, qu'il y a des gens qui parlaient d'élèves au potentiel, etc. Comme je n'étais pas dans les meilleurs, je ne me suis jamais identifié à cela ou même poser la question par rapport à ça. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas parce qu'on n'a pas le profil type de l'intello qui est au premier rang et qui répond à tout qu'on n'est pas au potentiel. Et que peut-être que des signes tels que les émotions fortes, un cerveau qui pense tout le temps, beaucoup de questions qui passent à travers la tête, etc. Ben, ces autres aspects sont aussi des signes. Et j'ai envie de dire tant aux personnes qui pourraient être concernées par ça au niveau du sport que les personnes qui encadrent les sportifs, et ben de se dire « Ah, peut-être il faut creuser, peut-être on peut être accompagné par des psychologues, préparateurs en préparation mentale, etc. » On puisse être aidé pourtant mettre le doigt sur cette situation ou aussi mieux encadrer les athlètes qui ont de tels profils.
Ce qui est très intéressant aussi, je trouve, dans ce que vous dites, c'est que finalement, on sort totalement de l'image d'Épinal, ou en tout cas des stéréotypes qu'on peut avoir sur le fait qu'une personne avec un haut potentiel intellectuel est forcément, dans les représentations, quelqu'un voilà, avec des lunettes au premier rang de la classe et qui va avoir des très bonnes notes partout et qui ne va pas forcément faire du sport. Donc c'est vrai que c'est important aussi de pouvoir partager là-dessus. Et dans ce que vous dites, je ne sais pas, justement, des personnes qui, comme ça, sont très dans leur tête, hein, c'est ce que vous disiez, est-ce que le sport, finalement, peut aider aussi parfois à canaliser ce mental ?
Bien sûr, moi, je crois que, en fait, j'aime cette expression de dire j'ai besoin qu'on m'on donne à manger à mon cerveau. Et c'est vrai que j'ai toujours dit cette double carrière d'être étudiante et sportive de haut niveau, ça m'a permis de trouver mon équilibre, de devenir meilleure étudiante et de devenir meilleure sportive. J'avais besoin, très jeune, de faire d'autres activités et je me rends compte que le sport est venu prendre une place importante dans ma vie. Mais j'ai fait aussi du théâtre, de la musique, j'aimais créer des choses, avoir des idées. Donc finalement, quelle que soit l'activité, je dirais que ça peut être vraiment un outil, une stratégie très intéressante pour peut-être, je ne voudrais pas dire revenir dans la norme, mais en tout cas retrouver un équilibre par rapport au reste de la société et puis se sentir bien. Et moi, c'était surtout ça. C'est quand je le disais avant que je m'étais finalement peut-être mise en difficulté, ben, ça me remettait un petit peu dans la norme. Et puis, c'est comme ça que j'ai trouvé mon équilibre, même s'il y avait des moments pas faciles.
Merci beaucoup, Anne-Sophie, pour tous ces échanges. Et de mon côté, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode des Atypiques du cerveau.